L'Iran condamne le recours par les États-Unis au veto contre la résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies, appelant à un cessez-le-feu humanitaire immédiat à Gaza. Le Hamas accumule les gains. Raids intensifs sur Tel Aviv. Le fils du ministre israélien de la guerre a été tué. Et la résistance irakienne a frappé les bases d'Ain al-Assad et le champ gazier Conoco en Irak et en Syrie. C'était les principaux titres. En voici le journal. Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Nasser Kanani, a condamné samedi 9 décembre l'usage par les États-Unis de leur droit de veto contre une résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies visant à parvenir à un cessez-le-feu humanitaire immédiat à Gaza. Nasser Kanani a souligné que le gouvernement américain a prouvé une fois de plus qu'il est le principal acteur et facteur dans le massacre de civils et de citoyens palestiniens, en particulier de femmes et enfants, et dans la destruction des infrastructures vitales à Gaza. Il a poursuivi en disant que depuis le début de l'invasion barbare du régime sioniste contre Gaza, le régime américain a prouvé à plusieurs reprises son alliance et sa coopération avec le régime d'apartheid d'Israël en commettant des crimes de guerre et un génocide contre la nation palestinienne. Il a ajouté que les responsables actuels des États-Unis, qui ont exprimé leur inquiétude pour la vie des enfants et des civils à Gaza, sous couvert de tromperie et d'hypocrisie, ont livré la semaine dernière à Israël la 200e livraison d'armes et d'aide militaire qui tue des enfants. Le Hamas a également condamné fermement l'usage par les États-Unis de leur droit de veto contre ce projet de résolution des Nations Unies, soulignant que les États-Unis étaient directement impliqués dans le massacre de la nation palestinienne. Le chef de la diplomatie iranienne s'est entretenu avec le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, des derniers développements de Gaza, dans le cadre de la poursuite des contacts et consultations diplomatiques à l'échelle internationale. L'allégation du régime sioniste selon laquelle le Hamas a annulé le cessez-le-feu est complètement fausse et malgré de vastes efforts déployés pour rétablir un cessez-le-feu, le soutien de Washington aux attaques militaires incessantes du régime sioniste n'a fait que compliquer la réalisation d'un cessez-le-feu durable dans la bande côtière, a-t-il dit. Tout en appréciant la décision prise par le secrétaire général des Nations Unies d'invoquer l'article 99 de la Charte des Nations Unies concernant les développements en Palestine et le génocide dans la bande de Gaza, M. Amir Abdullahian a souligné. Le recours à l'article 99 de la Charte des Nations Unies est un acte courageux de votre part pour maintenir la paix et la sécurité internationale et soutenu par l'opinion publique mondiale. Il a par ailleurs évoqué la situation humaine trop difficile à supporter dans le sud de Gaza et le déplacement, la mise en errance des femmes et des enfants pendant l'hiver froid dans les déserts méridionaux de l'enclave côtière, l'accélération des actions de dissuasion face aux crimes du régime sioniste ainsi que du soutien aux citoyens palestiniens. Il a d'ailleurs appelé à l'envoi d'une aide humanitaire et à la fin du déplacement forcé des citoyens palestiniens. Pour sa part, le secrétaire général des Nations Unies a expliqué que la situation humanitaire à Gaza est catastrophique et aucun des secrétaires généraux précédents n'avait invoqué l'article 99 de la Charte des Nations Unies depuis 1989. Mais en raison de la situation compliquée à Gaza et en Palestine, ce processus est actif et la nécessité d'un cessez-le-feu immédiat à Gaza se fait plus sentir que par le passé. Une pause humanitaire doit être rétablie. Et l'escalade des tensions dans la région doit être évitée. Il a souligné la nécessité de poursuivre ses efforts jusqu'à ce que les droits palestiniens soient recouverts et qu'un État palestinien soit créé avec l'approbation des Nations Unies. Ce vendredi 8 décembre, les États-Unis ont mis leur veto à une résolution du Conseil de sécurité appelant un cessez-le-feu humanitaire immédiat à Gaza. Malgré la pression du secrétaire général qui a dénoncé la punition collective infligée aux Palestiniens, 13 membres du Conseil de sécurité ont voté en faveur d'un projet de résolution présenté par les Émirats arabes unis, tandis que la Grande-Bretagne s'est abstenue et que les États-Unis ont opposé leur veto en ignorant l'agression israélienne. Le veto a eu lieu après que le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a formellement averti mercredi 6 décembre le Conseil de sécurité composé de 15 membres de la menace mondiale que représente la guerre israélienne qui dure depuis 2 mois contre le peuple sans défense de Gaza. L'ambassadeur adjoint des États-Unis auprès des Nations Unies, Robert Wood, a qualifié le projet de résolution de texte déséquilibré, déconnecté de la réalité. Londres, l'allié de Washington, s'est abstenu. L'ambassadrice britannique à l'ONU, Barbara Woodward, a déclaré que son pays s'était abstenu parce qu'il n'y avait pas de condamnation du Hamas. Guterres a convoqué la réunion sur la catastrophe humanitaire dans le territoire palestinien assiégé, 2 mois après qu'Israël a lancé ses frappes aériennes et terrestres sur le territoire assiégé. La guerre brutale israélienne a jusqu'à présent tué plus de 17 487 personnes et laissé le territoire en ruine. Le Hamas a fait part de ses plus récents gains sur le champ de bataille face à l'entité sioniste usurpatrice qui a plongé la bande de Gaza dans une guerre féroce. Abu Baïda, porte-parole des brigades al-Rassam, branche militaire du mouvement Hamas, a déclaré vendredi que le Hamas a mené des raids intensifs sur Tel Aviv et d'autres cibles dans les territoires occupés. Nos combattants ont ciblé les forces sionistes et les véhicules retranchés dans leurs positions avec des obus anti-chars et des explosifs antipersonnels, a-t-il dit. L'affrontement a fait des morts et des blessés confirmés dans les rangs ennemis et causé la destruction totale ou partielle de 21 véhicules militaires israéliens dans la bande de Gaza au cours des dernières 24 heures. Abu Baïda a poursuivi en affirmant que la résistance a réussi à contrecarrer une tentative de l'armée israélienne de sauver un soldat captif nommé Sa'ar Barouch. L'opération a entraîné la mort de ce dernier. Plusieurs autres captifs ont été tués ou blessés dans les bombardements contre la bande de Gaza. La veille, les brigades al-Rassam ont revendiqué la mort du sergent-chef Galmir Eisenkot, fils de Gadi Eisenkot, actuel ministre israélien de la guerre et ancien chef d'état-major. Le Hamas a salué le fait que le régime sioniste a lamentablement échoué à atteindre aucun de ses objectifs déclarés sur le champ de bataille, notamment la destruction de son mouvement de résistance, la libération des captifs israéliens et le déplacement permanent des Palestiniens de la bande de Gaza. Le mouvement s'est engagé à maintenir la résistance jusqu'à la fin complète de l'occupation israélienne. La base américaine d'Ain al-Assad en Irak et le champ gazier Konoka en Syrie ont été ciblés par des missiles de la résistance islamique d'Irak. Les médias locaux ont annoncé vendredi 8 décembre des attaques contre les bases américaines en Irak et en Syrie. Sabre News a rapporté que le lieu de rassemblement des occupants américains sur la base d'Ain al-Assad en Irak a été visé par des missiles. La source a également fait part de tirs de missiles contre la base américaine dans le champ de gaz de Konoko en Syrie. Les missiles ont atteint leur cible avec précision. Quelques minutes plus tard, la résistance islamique d'Irak a revendiqué dans un communiqué les deux attaques. Auparavant, à la suite du martyr de 5 de ses combattants, Akram al-Kabi, secrétaire général du Hezbollah irakien, a averti dans un communiqué les États-Unis qu'ils paieront cher. Les bases américaines en Irak et en Syrie ont été visées par le passé à plusieurs reprises par des drones et des missiles de la résistance islamique d'Irak. Ces attaques ont été menées en représailles aux crimes commis par le régime sioniste contre les habitants de Gaza. Les partisans de la Palestine se sont rassemblés devant 4 entreprises d'armement en Angleterre, tout en bloquant l'entrée de ces dernières. Ils ont protesté contre le soutien apporté par l'Angleterre au régime sioniste dans la guerre de Gaza. À la veille de la visite du secrétaire britannique à la défense en Palestine occupée pour souligner le soutien de Londres à Tel Aviv, les partisans de la Palestine en Angleterre ont bloqué jeudi 7 décembre l'entrée de 4 usines britanniques d'armement. Alors que les partisans des Palestiniens manifestent depuis 2 mois dans les principales villes britanniques, le soutien continu de Londres à Tel Aviv a provoqué des protestations contre 4 sociétés d'armement britanniques. Réunis sous la bannière « Travailleurs pour une Palestine libre », un groupe britannique a rapporté jeudi que des manifestants en Grande-Bretagne avaient bloqué l'entrée de 4 usines d'armement qui fournissent à Israël des armes et des fournitures militaires. Ce groupe syndical pro-palestinien en Angleterre a déclaré sur le réseau social X: plus de 1 000 membres de syndicats dans plusieurs villes britanniques ont bloqué les usines d'armement qui fournissent des armes à l'armée israélienne. Selon Travailleurs pour une Palestine libre, les militants du groupe pro-palestinien ont fermé l'accès à 4 sites d'armement au Royaume-Uni. Les usines qui produisent des pièces et des équipements pour le chasseur F-35 actuellement utilisés dans le bombardement israélien de Gaza. Les manifestants pro-palestiniens, tout en protestant contre les positions du gouvernement britannique, ont exigé un cessez-le-feu permanent dans la guerre israélienne contre Gaza. Voilà, ainsi s'achève le journal. Merci de l'avoir suivi. Restez à l'écoute du commentaire politique. L'Iran a besoin d'une politique affirmée sur ses droits dans le champ gazier d'Arach. Arach, au nord du golfe Persique, dans la province de Bushehr, est l'un des gisements gaziers communs à l'Iran et au Koweït. Les archives des négociations entre les deux pays au cours des 60 dernières années montrent qu'ils ont toujours reconnu leurs droits réciproques à une part des ressources gazières. Le Conseil suprême du Conseil de coopération du Golfe Persique, CCGP, a toutefois publié vendredi matin, 8 décembre, un communiqué affirmant que seuls l'Arabie saoudite et le Koweït détiennent des droits souverains sur ce domaine. Le différend concernant le champ gazier d'Arach, que les Koweïtiens appellent Doura, remonte aux années 1960, lorsque l'Iran et le Koweït se sont vus attribuer des concessions offshore suite à sa découverte. L'Iran a accordé sa part des droits à l'Anglo-Persian Oil Company, APOC, pour développer le champ, tandis que le Koweït a cédé sa part à Royal Dutch Shell, les deux actions se chevauchant dans la partie nord du champ. On estime que le champ contient 20 000 milliards de pieds cubes de réserves de gaz, ce qui pourrait produire 1 milliard de pieds cubes par jour. Près de 40 % du champ gazier d'Arach est situé dans les eaux iraniennes. En 2001, la compagnie pétrolière nationale iranienne a creusé un puits d'exploration pour déterminer le montant des réserves du champ. Le Koweït a menacé de porter l'affaire devant l'arbitrage international et suite à la visite de l'émir du Koweït à Téhéran sous l'administration de Mohammad Khatami, Téhéran a arrêté l'exploration et retiré la plateforme construite sur le site. Les forages de l'Iran, puis sa décision de les arrêter, sont intervenus en fait un an après que l'Arabie saoudite et le Koweït ont commencé conjointement des activités d'exploration et de développement sur le champ gazier à l'insu de Téhéran alors que leurs désaccords frontaliers restaient non résolus. En 2016, les médias iraniens ont rapporté que l'Arabie saoudite et le Koweït avaient formé la société Al-Hafij Joint Operation, KJO, pour développer le champ dans le cadre d'une coentreprise à parts égales, sans aucun droit pour l'Iran. Téhéran s'est fermement opposé à cet accord, qui l'excluait, affirmant que cette décision est illégale dans la mesure où les limites du champ partagé entre les trois pays n'ont pas encore été établies. Il a réclamé à plusieurs reprises un accord de démarcation des frontières pour déterminer son droit à exploiter une partie du gisement. En août, la République islamique a officiellement invité le ministre koweïtien des Affaires étrangères à apaiser les tensions. Cependant, le Conseil suprême du Conseil de coopération du Golfe Persique a mis un terme aux efforts de désescalade à l'issue de son 44e sommet à Doha au Qatar mardi dernier, affirmant que l'intégralité du champ gazier d'Arach se trouve dans les territoires maritimes du Koweït. Il a également déclaré que la propriété des ressources naturelles dans la zone submergée adjacente à la zone divisée entre l'Arabie saoudite et le Koweït, y compris l'ensemble du champ gazier, était uniquement une propriété conjointe entre l'Arabie saoudite et le Koweït. Les deux ont des droits exclusifs pour exploiter les ressources naturelles de cette zone, indique le communiqué. Le Conseil a fermement rejeté toute revendication de droit de toute autre partie dans ce domaine ou dans la zone submergée adjacente à la zone délimitée entre l'Arabie saoudite et le Koweït. Leur déclaration intervient après que l'Arabie saoudite et le Koweït ont annoncé en juillet qu'il n'y avait aucune place pour des négociations avec l'Iran concernant le champ gazier d'Arach Doura dans le golfe Persique. Une source bien informée au sein du ministère saoudien des Affaires étrangères aurait déclaré que le champ appartenait conjointement au Royaume d'Arabie saoudite et à l'État du Koweït et que seuls détiennent tous les droits souverains pour exploiter les richesses de cette région. Les archives historiques des 60 dernières années ne montrent aucun rôle saoudien dans les négociations entre l'Iran et le Koweït pour déterminer les frontières maritimes autour du champ d'Arach et comment exploiter ces ressources, ce qui signifie que les efforts de Riyad pour prendre une part ont commencé depuis 2000. En mars 2022, le ministre saoudien de l'Énergie a signé un document avec son homologue koweïtien visant à développer le champ gazier d'Arach Doura afin de produire 1 milliard de pieds cubes standard par jour de gaz et 84 000 barils par jour de condensat. Le ministre iranien du pétrole, Javad Oji, n'a pas tardé à réagir à l'annonce de son homologue saoudien affirmant que Téhéran commencerait bientôt à forer sur le champ d'Arach. Ces propos signifient que l'Iran ne restera pas un simple spectateur de la répartition de ses ressources gazières du champ d'arrache après 22 ans d'arrêt de ses activités de forage. Au cours de l'année écoulée, l'Iran a traité la question avec déférence suite à un accord de rapprochement réussi entre Téhéran et Riyad. Mais la poussée agressive du Koweït et de l'Arabie saoudite ne restera certainement pas sans réponse.